Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc en cette fin de semaine dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Joseph Delteil, Sur le fleuve Amour. On gravissait 12 marches en onyx, peintes des 12 mois, et on entrait dans une antique antichambre jaune, éclairée par des rosaces à vitraux impudiques. Le gérant s'empressa. C'était un homme bouffi et savant, débordant de carnation et de politesse, les mains élégantes, l'air mondain, mi-académicien, mi-évêque. Des gestes de la plus pure distinction sortaient sans cesse hors de ses grandes manches insolites. Il bénissait les clients avec un sourire de 3000 ans. Homme de goût, habit sobre, épaules souples, œil nuancé. Il mit à la disposition des visiteurs un cicérone tendre, nourri de riz. On avança. Dans une petite salle ronde, pareille à un œil, se tenait le modeleur de cire. Il pétrissait languissamment les cires blanches, rouges, crème, vertes, indigo. Assis sur un tabouret de bois, il vanta ses statuettes physiques en remuant sa barbichette de bouc. Et parfois, de son ongle noir taillé en biseau, il redressait une posture en défaillance ou polissait un épiderme de gros grains. Le télégraphiste bleu toussa encore. C'était peut-être par pudeur. Ses joues devinrent luisantes et vernies. Ludmila se pencha sur lui d'un air grave et lui caressa la poitrine corrompue. L'aimait-elle encore? Et de pitié ou d'amour? Elle marchait à côté de Boris. Nicolas suivait, seul. Parfois, elle se retournait et lui composait un sourire. Ils arrivèrent dans une salle carrée à étroites fenêtres ogivales, munies de vitres noires et violettes. Il y dormait une obscurité vaguement sacrée, une obscurité d'améthyste. Dans des pots de grès emplis de suif de mouton flambaient rougeâtrement des mèches fumeuses qui projetaient sur les murs vides des clartés délétères. Quatre malingres torches d'encens brûlaient sans force dans les quatre coins. Adossés au mur, on voyait des libas en laque fade, gardés de draps de soie jaune à cigogne noire. Sur chacun de ces lits était étendu sur le dos un nègre de l'Afrique équatoriale, beau et nu. Les muscles pectoraux se gonflaient au rythme de la respiration en forme de rotonde. Le ventre, d'un noir rose, conservait une molle immobilité. Le cicérone expliquait négligemment les mérites de la flagellation considérée comme l'un des beaux-arts et les variantes des rapports existants entre la souffrance et la volupté dans les quatre races. C'était un petit bonhomme chagrin et rebondi, très orné, nourri de lait et de riz qui lui faisait un sang blanc et une chair blême. L'âme débonnaire et le pas timide, il parlait avec une suave onction. Son visage réussissait à la perfection cette contraction des traits propres à la race jaune et qui ressemble à une harmonieuse grimace. Il avait à la main une lourde baguette de bambou à l'aide de laquelle il accomplissait ses fonctions. Il n'avait pas de natte et accoutré dans un mince complet de flanelle blonde coupé à l'intention des garçonnets de Glasgow, il donnait assez l'impression d'une abeille qu'un canonnier hilar utiliserait comme obus dans une batterie de 105. on arriva dans la salle des bougies. C'était une longue pièce rectangulaire à deux rangs de hautes fenêtres égales. L'odeur de la cire fit tousser davantage le petit télégraphiste bleu. Boris éprouva le besoin d'allumer un massif cigare de manille orné d'inscriptions et de bagues. Ludmila s'arrêta. La salle était éclairée tout entière aux bougies. Des statues d'ambre apposées contre les angles emportaient des pleines mains. Elles pendaient en grappe au dossier des fauteuils et au cadre des glaces. Un candélabre central en soutenait 300. Les armoires ouvertes en étaient pleines comme des ventres. Il y en avait sur des consoles de marbre en forme de cœur ou de saint, sur de hauts trépieds de bronze de la dynastie de Ming, sur des tables de bois, de jaspe, de carton, d'onyx, de cuir, de bambou et d'aluminium. À ce moment, Ludmila abandonna Boris et prit le bras de Nicolas. Peut-être fût-ce inconsciemment ou par contenance, parce que le spectacle la troublait, ou par une subtile attirance en un instant exaltant vers un cœur plus fragile. Mais Boris, resté seul en arrière, voulut y voir une désignation, un choix. Depuis leur désertion, ni lui ni Nicolas n'avaient envisagé cette échéance, l'instant où Ludmila choisirait. Ils entrèrent dans la salle d'eau. Une grande piscine régnait. Alentour courait une sorte de balcon protégé par une rampe de bambou. Des outres de peau de chat et de vessie de porc flottaient sur l'eau verte. Ludmila, épuisée, désira pour sa peau brûlante l'eau plus verte et plus métallique que les yeux des lézards. Elle se dévêtit brutalement et entra toute nue dans la piscine. Elle nageait à grands coups. Boris et Nicolas se déshabillèrent et entrèrent aussi dans l'eau. Les caleçons de soie cramoisis du cicérone écorchaient ses cuisses sanglantes. Le télégraphiste pulmonique, appuyé à la fragile rampe de bambou, regardait douloureusement. Boris et Nicolas jouaient autour de Ludmila comme deux jeunes phoques. Elle leur jetait des outres au visage en riant avec abondance. Ses yeux, que l'eau bleuissait encore, luisaient avec des teintes électriques. Puis, tout à coup, elle s'abandonna, toute pâlissante, entre les bras de Nicolas. Boris, mordu par la jalousie, s'éloigna dans un coin et se mit à causer avec le télégraphiste. Le cicéroné de riz mettait en mouvement une robinetterie compliquée qui grinçait avec un bruit d'huile et de cuivre jaune. L'eau tourbillonnait comme si le corps brûlant de Ludmila l'eût mise en ébullition. Puis tout entra dans le calme. Ludmila s'alanguissait dans les bras de Nicolas qui, pressant ce corps nu sur sa poitrine nue, lui murmurait des paroles peu opportunes mais pleines de sens. Décor insolite pour une scène d'aveu. Les ombres des héroïnes classiques se voilent quelque part la face. Tous les romanciers mondains salivent de dégoût. Toutes les vessies regardent avec des clignements d'yeux minuscules et cochons. Le télégraphiste tousse. Et peut-être à cause du tremblement de l'eau, son reflet incolore grelotte dans la piscine. Boris se cure superbement les ongles. Ludmila parlait en ces termes. Je suis né au bord de l'amour. Désormais, c'est là seulement que je veux vivre, que je veux aimer. Mon cœur aspire à retourner sur les rives du fleuve qui le lavera et le rénovera. Emmenez-moi, emmenez-moi sur le fleuve amour. Ils partirent d'un matin d'avril qui sentait le camphre et la fleur de giroflée. Ils voyageaient en joncle sur le canal impérial qui relie Shanghai à Pékin. Le canal impérial reste une voie navigable de grande signification. Jonque, sampan, barque, poussée à la gaffe, allée à la cordelle, vont et viennent sur l'eau toute grouillante de microbes et de sangsues. De frêles mariniers, les jambes maigres et les joues rondes, assis sur le rivage jaune, réparent sans relâche des agrès. Parfois, on traverse une ville et, si c'est le soir, des femmes invisibles du haut des balcons riverains lancent sur la jonque des roses rouges et des fleurs de pêcher. Ou bien on croise la barque d'un mandarin. Toute la carène est peinte de personnages bouffis qui coupent un riz trop blanc dans un marécage trop jaune. Elle a des voiles de nattes tressées et un gouvernail de lac. Et au passage, le mandarin monte sur le pont avec son secrétaire, ôte solennellement ses besicles d'écaille et salue la jonque avec des formules très vieilles. Quand ils arrivèrent à Pékin, c'était l'époque de la guerre civile entre les généraux Wu Peifu et Chang Xiang. Wu Peifu, gouverneur du Hulei et du Hupei, était un habile stratège à moustache. Il avait rapidement porté ses forces, 40 000 hommes avec 7 batteries de 3 canons, aux portes de Pékin. Puis, par un heureux mouvement concentrique, il coupa la ligne de chemin de fer de Pékin à Mukden. Lunmila, Boris, Nicolas et le télégraphiste bleu ne purent donc continuer leur voyage. Ils s'installèrent dans le quartier des légations qui, par suite des circonstances, regorgeait de soldats européens et américains. C'était une petite maison basse à 3 portes située dans la rue Yu Sai. Alentour, on voyait rôder côte à côte un marin du croiseur américain Illinois et un soldat de l'infanterie de ligne française. Le premier, glabre et rose, fumait un cigare avec taciturnité. Le second, bavard et brun, les godillots bâillants, hurlaient de jolies chansons obscènes. Le lendemain matin, le télégraphiste bleu alla aux nouvelles. Elles étaient charmantes. Wu Peifu se déplaçait dans la direction du nord de Shoshu à Liu avec toutes ses mitrailleuses. Lunmila et les 3 hommes y allèrent aussi. Les remparts de Pékin sont larges et surmontés de vastes terrasses qui servent de promenade. On y a planté des arbres nains et élevé de petites pagodes et de menus châtelets. Alentour des portes, ils sont encore élargis et supportent des ouvrages militaires et des édicules pour dames. Ce jour-là, à l'occasion de la bataille, de chic bars étaient venus s'y établir. Dans les uns, des anamites confus, les lèvres peintes, circulaient autour de petites tables de bois rouge offrant aux clients du thé, du sangfo et des prunes confites. Dans les autres, de beaux garçons anglais très roses servaient des absinthes et des cocktails. Une foule bariolée se baladait sur les remparts. Des commerçants intelligents installaient d'ingénus étalages où l'on vendait du tabac, des jacinthes et des chauves-souris. Lunmila et les 3 hommes choisirent un emplacement propice et s'assirent sur des fauteuils de bambou. On le servit une liqueur verdâtre, cadavérique. Lunmila prit les mains du télégraphiste bleu et en considéra les veines. Elles étaient plus bleues que son costume. Des jeunes femmes chinoises passaient devant les tables, suivies d'un valet en livrée citron qui portait, perché sur un bâton de velours, leur serin favori. Un marchand de lorgnettes, à gauche, chantonnait sur un ton morbide un boniment compliqué. Lunmila but dans le verre de Boris. Aussitôt, elle se repentit de cette mutinerie. Nicolas avait étrangement pâli, sensible et douloureux. Il la regarda longuement pour la première fois. Il songeait lui aussi à cette éventualité, à ce choix qu'elle ferait peut-être entre Boris et lui.
Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. précision de ma machine. Il me monte des désirs dans le creux de mes reins. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je vais à plus de 100 et je me sens à feu et à sang. Oh, que m'importe de mourir les cheveux dans le dans le vent.
Lecture en liberté, Denis Flageol.
Joseph Delteil, sur le fleuve Amour. La 24e compagnie chimiste. Les hommes, comme le télégraphiste bleu, jouent dans la vie des rôles de désarmement comparables à celui des nations neutres dans l'Europe militaire. Ils cultivent l'agriculture et les beaux-arts. Ils ont des vaches et des tulipes, leur vie et leur mort passent inaperçues, ils n'ont pas d'histoire. Nicolas, Ludmila et Boris passaient leurs jours, les deux premiers sur le fleuve et l'autre en forêt ou inversement. En outre, les mercredis soirs, Ludmila et Nicolas restaient dans leur chambre à faire l'amour. La Trinité manquait un peu de Saint-Esprit. Que cette vie rurale, fluviale, sylvaine et aphrodisiaque ait toujours été exempte d'ennui, il ne le semble pas. Je crois précisément que la mort du télégraphiste déclencha une période de l'ennui que les annales futures nommeront la dynastie des chimistes. D'ailleurs, mes personnages ne sont pas parfaits par principe. Ils ont du vice, mais pas des vices. En somme, ils ne diffèrent guère des autres que par la forme de leurs ongles ou la longueur de leurs cils. Je veux dire par une ou deux antennes sensationnelles. Parfois, cet ennui était rompu par le passage d'un détachement bolchevique. Un soir d'août arriva la 24e compagnie de chimistes chinois. Le capitaine, un céleste rebondi et rance, avait inventé une poudre pectorale qui, prise à la dose de 5 grammes dans une tasse de tisane d'orge, incorporait aux hommes choisis de beaux sentiments communistes. Les femmes s'y montraient réfractaires, sans doute à cause de la conformation de leur sexe. Mais les enfants en raffolaient, parce qu'ils sont des enfants. Ce capitaine se nommait Ou Ma Lu. Les hommes étaient en train de décharger les caisses pharmaceutiques, les acides et les bocaux. Ils allaient dans les rues du village, portant à bout de bras des fioles à long col, pleines de dissolutions roses ouvertes. Lui, il vint s'asseoir au milieu de la place publique sur une natte d'orgale et se mit à lire un livre allemand. C'était le fameux traité de minéralogie humaine du docteur Gerenhardt de l'université de Halle. Le savant professeur y expose et démontre que le corps humain est un composé minéral et il énumère les quantités de salpêtre, de bore, de fer, de soufre, etc. qu'il contient. Les soldats chimistes étaient logés chez l'habitant. Ludmila en reçut une ration de 2. Ils vinrent en marchant sur la pointe des pieds pour que le soleil se couchât à poil. L'un d'eux menait en laisse un petit animal domestique intermédiaire entre la belette et la sarigue. L'autre pressait chastement contre sa poitrine une courge peu mûre. Ils s'assirent sur leurs talons, tuèrent la belo-sarigue avec leurs sabres, épluchèrent la courge avec leurs ongles et firent cuire le tout ensemble dans une marmite de terre à feu doux. Puis ils se mirent en devoir de confectionner avec le légume et la bête une sorte de pâté qu'ils arrosaient d'alcool de riz et épissaient de piments rouges, de rhubarbe et d'échalotes. Ludmila et Nicolas regardaient faire cette douce cuisine. Tout à coup, entra Boris. Il arrivait de la chasse. D'un grand coup de pied, il envoya rouler à terre la marmite et les instruments de torture. Puis, saisissant les deux chimistes par les jambes, l'un après l'autre, il les balançait un instant, un, deux, et les jetait par la fenêtre. Au bout de 10 minutes, un détachement de 25 hommes vint investir la maison. Ils avaient 4 mitrailleuses, un lance-flammes, des musettes de grenades et des bacilles du typhus. Ils firent 3 sommations courtoises et Boris se livra. Il fut emmené, jugé séance tenante et condamné à 4 morts. Mais dans la nuit, l'ordre parvint au capitaine Oumalou de rejoindre en hâte Kraskoïa. Les bolchevistes partirent en désordre, oubliant totalement Boris. Il n'avait subi qu'une mort et demie. Quand le matin il revint à la maison de Ludmila, Nicolas l'accueillit en pleurant. Ce simili-frère que depuis quelque temps il tenait à l'écart, Ludmila et lui, venaient pour lui de hasarder sa vie. Il se prit à songer à toute leur existence ancienne, à l'époque où dans un collège de pop, ils étudiaient côte à côte leurs leçons en se tenant par la main. À l'époque où, munis de sentiments égaux, ils aimaient ensemble la même femme sans honte et sans artifice. À l'époque où ils chargeaient bras dessus, bras dessous dans les plaines sibériennes, montés sur 2 chevaux équivalents liés l'un à l'autre par la queue. Ces souvenirs homogènes attendrissaient Nicolas, enfant slave. Il se sentit coupable de l'aise amitié, de l'aise fraternité. Égoïstement, il avait gardé pour lui seul Ludmila. Quel droit avait-il sur elle ? Un instant, il se chercha un grand objet de sacrifice. L'idée lui vint de s'éloigner de Ludmila, de la laisser à Boris, mais instantanément, il sut qu'il ne pourrait réaliser cette idée. Il pleurait dans les bras de Boris et Ludmila les regardait tous les deux, Nicolas avec tendresse et Boris avec cruauté. Ils sentirent tous les deux que cette journée était sacrée dans leur vie. Ils voulurent la passer ensemble. Ils désirèrent la proximité de l'eau, élément de liaison. Ils partirent en barque avec leurs filets. Le fleuve amour coulait sans modération. Au bord des nénuphars hypocrites, se tenait en embuscade, à fleur d'eau. Plus loin, le courant charriait des arbustes nains, des roseaux et de petites carapeloques. Ils se dirigèrent vers la baie d'Angosche, à quelques kilomètres en amont. C'est une anse poissonneuse et ombreuse. L'ombre grasse des noyers se marie à la fraîcheur de l'eau. Nicolas était au banc et ramait. Il parlait peu. Boris se souvenait du télégraphiste bleu et ce souvenir ne lui apportait que volupté. Ils arrivèrent bientôt. Ils attachèrent la barque à un tronc de peuplier et posèrent les filets. De temps en temps, ils parlaient en termes techniques avec une sorte d'exacte réticence. Puis ils se couchèrent au fond de la barque et attendirent. Alors Boris se dressa et se mit à regarder Nicolas. Il était étendu sur le dos, les yeux très hauts. Sa veste de drap brun l'enfermait avec jalousie. Toute l'ombre des bouleaux coulait sur ses tempes et tombait en cataracte dans sa poitrine. Ses mains étaient molles. Follement, Boris lui criait « Depuis 3 mois, je meurs d'amour pour elle. Je suis à bout. Elle était autrefois notre désir commun. Pourquoi n'est-elle pas notre maîtresse commune ?» Tu en as rassasié ton seul corps. À mon tour, je te le dis, je veux Ludmila. Je veux Ludmila. Cette expression choqua Nicolas. Il eut un regard hostile, sans bord. De la main droite, il maniait avec inconscience la ligne des filets. Sur cette main, des veines bleues s'amusaient comme des jeunes filles sur une plage. Les noyés avaient des allures de naval. Au même moment, à Malte, un lieutenant de vaisseau à 3 gallons devait courtiser en langue anglaise une miss cypriote digne de la filiation d'Homère. Doucement, Nicolas répondit, « Elle est venue à nous. Elle n'est ni à toi, ni à moi. Elle est libre. » L'ombre d'un haut vautour cassa la barque en deux. Au loin, un renne invisible hennissait comme une victime de tragédie antique. Mais Boris de nouveau parlait et sa voix grondait entre ses dents comme un tigre entre les barreaux de la cage. « Librement ou de force, je l'aurai. Je la sens déjà en moi, je l'aurai. » Et sans bouger, étendu au fond de la barque, Nicolas répondit « Non, jamais, ni de gré, ni de force. » Sa voix était calme, tout embellie d'une assurance euphonique. Boris sentit affreusement que c'était vrai. Jamais, jamais. Il se roidit brusquement. Ses bras, en un geste absurde, étreignirent tout le firmament. Nicolas s'était levé et lui faisait face. Il le saisit par les bras. Nicolas se débattit, essayant de pousser Boris contre la proue. Puis, de la main libre, il chercha le cou de Boris pour l'étrangler. Mais ce jour-là, Boris se sentait empli d'une force fabuleuse. De ses deux poings, il jeta Nicolas au fond du canot. Alors, Nicolas s'abandonna. Cet homme fort et triste, debout devant lui, était le destin. Il ferma les yeux et attendit. Boris se pencha sur lui. Sa voix se fit douce, comme celle du prêtre devant Iphigénie. Il se mit à caresser les cheveux de Nicolas une dernière fois. Il lui flattait les joues, la gorge, la poitrine. Il accomplissait les rites. Une volupté se glissait dans tous ses gestes. Nicolas restait là, étendu, aveugle, infime. Et toujours, Boris, penché sur lui, l'exorcisait de la main, mêlant son haleine à la sienne, reconnaissant soudain la bouche d'autrefois, ses yeux bien-aimés. Il se fit, sur le fleuve amour, une sorte de silence sacramentel. Toute la nature entra dans une étrange connivence. Pas une feuille ne trembla. Un aviron s'émerveillait au fil de l'eau. Alors, devant l'eau et le ciel complices, Boris prit délicatement Nicolas dans ses bras, le baisa trois fois sur la bouche et le lança mollement dans le fleuve. Nicolas n'essaya même pas de nager. La mort lui paraissait vaine et slave. Pendant quelque temps, le corps surnagea par intervalles, tantôt de la tête, tantôt d'une jambe. Puis il coula par six brasses. Voilà. Nous avons terminé donc ces extraits du roman de Joseph Delteil, Sur le fleuve amour. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une autre lecture. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.